Silence et gâteau de miel, la sagesse du désert.
Bonjour et bienvenue. Nous sommes le jeudi 11 mars et aujourd'hui nous réfléchirons à ce que cela signifie de fuir le chemin facile pour persévérer sur celui qui est exigeant. Nous entrons dans cette méditation avec le psaume 95. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et nous entendons la parole de Dieu dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 7, les versets 23 à 28. Ainsi parle le Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Écoutez ma voix. Je serai votre Dieu et vous, vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci. Ils ont tourné leur dos et non leur visage. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous, inlassablement, tous mes serviteurs les prophètes. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur nuque, ils ont été pires que leurs pères. Tu leur diras toutes ces paroles et ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras et ils ne répondront pas. Alors tu leur diras, voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu et n'a pas accepté de leçon. La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. Gloire à toi, Seigneur. Rowan Williams, Silence et gâteau de miel, chapitre 3. Fuir. Quatrième partie. Vous souvenez-vous de l'écrivaine américaine Annie Dillard que nous avions évoquée il y a quelques jours? Elle faisait observer que dans l'écriture, le passage auquel il faut renoncer est souvent celui que nous pensions le meilleur, celui qui s'accorde le mieux à nos propres attentes. Si nous ne faisons pas l'effort de le soumettre à la critique, ce processus de l'écriture n'opérera pas en nous la transformation qu'il devrait effectuer. Il nous faut apprendre à développer un sens impitoyable de la faiblesse cachée, apprendre à nous rendre difficile la tâche de l'écriture. Elle écrit « Mettez à plat la structure de ce que vous avez déjà, passez-la au rayon X à la recherche de cette fissure pas plus épaisse qu'un cheveu. Et quand vous l'aurez trouvée, réfléchissez-y pendant une semaine ou pendant un an. Trouvez une solution au problème insoluble. » Ce passage au rayon X est en fait très proche des préceptes du désert au sujet du fardeau de l'auto-accusation. Au désert, ce problème insoluble, c'est moi-même. Cette fissure pas plus épaisse qu'un cheveu, c'est cet élément difficile à saisir, mais fatal, d'égoïsme naturel et d'inattention au prochain, qui menace de me laisser éternellement blessé et en porte-à-faux avec Dieu et avec moi-même. Comme l'écrivain qui fait de gros efforts pour éviter ce qui est trop évident et trop facile, nous fuyons ces parts faciles de notre âme ou de notre imagination, les moyens faciles de gagner l'approbation des autres. Pourquoi êtes-vous si compliqué ? Demande-t-on parfois aux écrivains. La réponse, c'est que bien souvent, seule la maladresse peut nous sauver de la bêtise ou de l'égoïsme. De la même manière, bien souvent, les saints ne sont pas seulement des personnes exaltantes ou inspirantes, mais aussi des personnes difficiles. Je ne veux pas dire par là colérique ou imprévisible, même si les saints, comme tout le monde, peuvent être colériques et imprévisibles. C'est plutôt qu'ils ne sont pas facilement réductibles à une formule, pas facilement récupérables comme soutien fiable d'une cause particulière, qu'ils n'en sont pas des membres de partis loyaux et dévoués. Ils sont trop préoccupés par les rayons X. Cela veut dire que toute personne qui a entendu ce même défi que les pères et les mères du désert est en fuite de la conformité. Pas parce qu'ils veulent s'assurer d'une certaine liberté d'expression individuelle, nous avons vu comment cela peut devenir l'une des plus grandes illusions qui soit, mais au nom d'une communauté qui soit authentiquement communauté de personnes. Elle chérit le silence, non comme une manière de se couper des relations, mais afin de faire ce que T.S. Eliot, quand il parle du rôle du poète dans les quatre quatuors, décrit comme « purifier le dialecte de la tribu », c'est-à-dire restaurer, pour cette communauté de personnes, un langage qui soit aussi libre que possible des petits jeux de contrôle et d'évasion qui prennent tant de place dans la parole de la plupart d'entre nous. Il vaut la peine de nous souvenir que, lorsque Jésus dit le plus pleinement possible à ses disciples qui il est, la plupart trouvent que c'est une parole dure. C'est dans le discours sur le pain de vie, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, verset 60. Il ne leur donne aucune formule facile, mais il parle de manière à les inviter à le reconnaître, ainsi qu'à reconnaître leurs besoins les plus profonds et leur vérité la plus profonde. Il parle dans le contexte d'une relation dans laquelle la vérité peut être mise à jour, pour nous. Et ces mots nous sont donnés pour que nous les absorbions, pour que nous nous les répétions, afin de pouvoir nous parler l'un à l'autre en son nom. Graduellement, par le don de l'Esprit-Saint, un nouveau langage émerge pour cette nouvelle communauté de disciples. Un langage d'une grande simplicité pour s'adresser à Dieu, Abba, Père. Un langage plein de surprises et d'audace pour nous adresser l'un à l'autre en écho à ce que Dieu a dit et que nous trouvons dans la Bible, dans les formulations doctrinales. Par son ministère, sa mort et sa résurrection, Jésus crée un groupe d'êtres humains où il devrait être difficile de se livrer à des discours faciles. En faisant référence à ce que disent les écrivains de leur processus d'écriture, nous nous rappelons que toute quête de la vérité implique une sorte de fuite, une sorte d'ascèse. Tout acte de création imaginative, dans les sciences aussi bien que dans les arts, a besoin de silence, d'une certaine méfiance par rapport à ce qui paraît facile. Et à une époque où il semble que la politique soit de plus en plus dominée, par les préoccupations de l'apparence et de la présentation, de l'effet que ça ferait. Une époque où la culture de la célébrité nous vend tous les jours des images illusoires, où le show business étend ses tentacules dans toutes les directions. Il nous faut savoir quand et comment fuir, tout en étant conscient que ce n'est pas tant la folie des autres que nous fuyons, que notre propre tendance qui est profondément enracinée, à nous laisser entraîner dans ce genre de jeu. Souvenons-nous de la formule lapidaire de Macaire. Le monde, c'est un endroit où on nous fait faire des choses stupides. Nous prions. force fragile sur le mur de nos résistances. Beauté nette et floue à la fois, née de nos racines d'ombre et de lumière. Se peut-il, Seigneur, que tu nous fasses croître dans ce terrain et ce décor si vulnérable? Faut-il donc que nous passions toujours par des déchirures, par l'abandon d'une part de nous-mêmes, par le deuil de l'illusion de la complétude, de la force qui fait face sans jamais s'écrouler? Toi qui sais les failles creuses de nos murailles humaines, toi qui sais les contradictions de nos amours, nos quêtes de sens et d'une parole sur nos peurs et nos espérances. Tu sais aussi combien nous manque le souffle de la confiance, le risque des gestes qui construisent, et combien l'angoisse de la blessure peut nous faire reculer. Toi qui sais le prix de l'amour et qui l'a offert en plénitude, accorde à nos mains de pauvres l'offrande de s'ouvrir, de se désarmer, de se desserrer de nous-mêmes et de nos chemins, pour nous laisser rejoindre par le tien. Amen.